n'êtes pas au même endroit maintenant que quand vous avez commencé. Quand on a commencé le service, on n'est pas au même endroit. De cet endroit-là, on va écouter la parole. Et ce week-end, c'est Marc qui va nous la porter. Et combien il est une bénédiction. Combien il est une bénédiction. Et il prêche la parole, elle est vivante, ça sort de son esprit et on est béni.
Ça marche le micro ? Rebonjour à tous. Merci pour les encouragements. Je vais reprendre ce que tu viens de dire, ça va être le titre de mon message, c'est très bien. Une histoire de cœur, j'aime bien. C'est une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Vous savez, on a reçu dernièrement dans la boîte aux lettres un petit prospectus des témoins de Jéhovah. Et j'aime bien lire. J'ai pas peur, hein. Donc je regarde ce qu'il y a, que ça soit la révélation d'Arès, les témoins de Jéhovah. Je prends la température de la génération qui est la mienne. Et je regarde la brochure des témoins de Jéhovah et je vais vous dire, je la trouve hyper bien faite. Elle est moderne. D'abord, ils ont manifestement décidé de sortir de l'ombre. Ils ont un site internet qui est court, qui est efficace. Ils ont un logo. Ils invitent les gens pour une espèce de sainte scène qui a lieu une fois par an, apparemment, au niveau mondial. Ils ont une adresse sur Nice. Avant, on se demandait dans quelle sombre ruelle ils se réunissaient. Plus maintenant. Et ça m'a parlé. Parce que je me suis dit, mais que font les chrétiens dans cette histoire ? Et honnêtement, le plus entre guillemets fourbe de tout, c'est que quand vous ouvrez, donc c'est une petite brochure 4 volets, et quand vous ouvrez, sur votre gauche, vous avez une espèce de peinture, mais plus une peinture gnangnan comme c'était le cas avant, on dirait presque de l'image de synthèse, quoi. Jésus est en train de prendre la Sainte Cène avec ses disciples, et à gauche, ça nous parle de la Bible. Enfin bref, de parfaits petits chrétiens, quoi, qui n'en sont pas. Mais la Bible est une Bible frelatée, Christ n'est pas Christ, ou plutôt Jésus n'est pas Christ. Mais cela étant, c'est très trompeur. Et je me suis dit, si on ne parle pas, si on ne témoigne pas, les gens vont se tromper. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on ne reste pas au confort de notre salle du Boscolo, bien chauffée, bien moelleuse, lumière tamisée, c'est le moins qu'on puisse dire. En disant moi je vais faire mon petit culte le dimanche matin, parce qu'il y a des gens dehors qui ont besoin de la parole de Dieu et qui sont en train d'être harponnés par des gens qui vont leur donner quelque chose de frelaté. Vous avez déjà fait une intoxication alimentaire ? Voilà. Quand c'est dans l'esprit, les conséquences sont beaucoup plus dévastatrices. Donc vraiment je vous encourage à commencer à parler autour de vous, si vous ne le faites pas, ou à continuer de parler autour de vous. Et ça m'a posé la question, quelle est la différence ? Réfléchissez à ça ce matin, entre nous et eux finalement. Oui, nous on a Jésus. Non, mais... Quelle est la différence entre l'évangile et une religion ? Parce que l'évangile n'est pas une religion. La différence fondamentale, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, mais tout le monde a un livre saint, tout le monde a des dogmes, tout le monde a des principes, tout le monde a des règles à respecter, il faut, il ne faut pas. Oui, mais la parole de Dieu n'a rien à voir avec ça. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1. Si vous n'avez pas amené votre Bible ce matin, vous pouvez ramper pour aller en prendre une s'il en reste sur le meuble qui est là. Parce qu'on va regarder des versets. Ramper pour la discrétion, bien entendu, pas pour la culpabilité. Hein. Il est dit au commencement, Jean 1:1, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La parole de Dieu, et quand on poursuit la lecture du chapitre, on voit que cette parole, c'est Jésus. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est-à-dire que Jésus est la parole de Dieu. Vous savez, dans le langage biblique, la parole, c'est l'être. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il n'est pas en train de dire quelque chose et de penser à autre chose. Ce ne sont pas simplement des mots, ce ne sont pas simplement des explications, c'est pas simplement quelque chose de technique. Nous, quand on parle, on communique avec la personne d'en face pour transmettre une idée. Mais c'est beaucoup plus que cela. En réalité, la parole, c'est la personne elle-même. Quand Dieu parle, il ne se contente pas de transmettre une information. Quand Dieu parle, il se transmet lui-même. Et le fait que Jésus soit appelé la parole de Dieu, ça vous montre, petit 1, la proximité qu'il y a, la fusion qu'il y a avec Dieu le Père lui-même. Petit 2, ça vous montre que quand Dieu nous adresse Jésus-Christ, ce n'est pas une plaisanterie. Il est en train de se donner lui-même, de se manifester lui-même, je dirais presque de se transférer lui-même à l'intérieur des êtres humains. Troisième observation, c'est qu'il n'y a aucune différence entre la parole écrite et Jésus. Quand Dieu donne sa parole par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est exactement la même parole qu'il donne par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Beaucoup de gens considèrent Jésus comme un simple prophète, comme un simple homme éclairé. C'est beaucoup plus que cela. Jésus est la parole de Dieu, il est lui-même une émanation de Dieu le Père, et lorsqu'il parle, il transmet Dieu le Père lui-même. Et il se transmet lui aussi lui-même, puisqu'il s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez à quel point ce livre que nous avons n'est pas un simple livre ? Est-ce que vous comprenez également l'importance qu'il y a à le mettre à l'intérieur de nous-mêmes et à ne pas le laisser sur une étagère ? On va regarder quelque chose, la parabole du semeur, vous l'avez déjà lu certainement, on va la regarder dans les trois évangiles, Matthieu, Luc, Marc, on va commencer par l'évangile de Marc, chapitre 4. Marc chapitre 4, au verset 1, il nous est dit « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac ». Pourquoi je commence par l'évangile de Marc ? Parce que les autres évangiles, on va s'en servir de base, et les autres évangiles vont donner des détails intéressants. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse, qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Donc, cette session d'enseignement de Jésus au bord du lac, tout n'est pas retranscrit. Puisqu'il nous est dit, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées, mais l'une des choses, c'est la parabole du semeur. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus a fait et dit et accompli tellement de choses que la terre entière ne suffirait pas si on devait écrire tout ce qui a été fait. Donc on va encore aller de découverte en découverte quand on va aller au ciel, je pense, parce qu'on va, ne serait-ce que sur la vie de Jésus sur terre, découvrir beaucoup de choses. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, chaque mot est important. Quand on part du principe de ce que je viens de lire dans Jean 1, on comprend que Jésus ne dit pas des mots en l'air. Chaque mot qu'il dit est important. On peut lire les choses de manière assez anodine parfois. On peut lire la Bible comme on lirait n'importe quel autre livre. Mais on pourrait s'arrêter sur chaque mot, aller le creuser, lire dans d'autres versions, regarder l'étymologie et dire « Seigneur, pourquoi tu as employé ce mot plutôt qu'un autre ?» C'est à ce point sérieux l'étude des Écritures. C'est à ce point sérieux ce que Jésus dit ou ne dit pas. Et il commence par dire « écoutez », pas « entendez ». Il y a une différence entre « entendre » et « écouter ». Là, vous avez entendu un bruit. Mais quand on écoute, c'est autre chose. Par exemple, le ronronnement du climatiseur derrière, ou du chauffage, vous l'entendez. Maintenant, si je vous dis « écoutez le bruit que ça fait », votre attention est en train de se déplacer vers le fond de la salle. C'est pas pour que tu l'éteignes. Hein. Votre attention est en train de se déplacer, voire vous vous déplacez vous-même, vers le fond de la salle. Et vous vous concentrez sur ce qui se passe. Jésus commence par dire, écoutez. Un semeur sortit, pas pour se balader, pour semer. C'était son intention. C'était son but. C'était ce sur quoi il était focalisé. Il n'est pas sorti au hasard, il est sorti pour semer. comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Vous imaginez la scène, vous vous êtes déjà baladé, vous avez peut-être un jardin. Vous savez que parfois il y a de la terre qui s'accumule avec le vent, etc., dans des recoins, entre deux rochers, entre deux cailloux. Et cette terre, ou dans un mur par exemple, des fois c'est surprenant. Vous voyez de la végétation qui pousse dans un mur. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a un creux qui s'est formé et qu'il y a de la terre avec le vent qui a été apporté là. Il n'y a pas beaucoup de terre. Ça suffit pour faire pousser de petites herbes sur votre balcon. Signe d'un futur dégât des eaux pour la personne du dessous. Réécoutez mon message d'il y a 15 jours pour ceux qui ne comprennent pas la blague. Donc il y a de la terre, ça pousse. Elle leva cette semence aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Ce qui me fait dire que les ronces poussent plus vite que cette semence. Elle donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, on va lire. Alors on sait que les disciples interrogent sur cette parabole. Et donc il explique très clairement que, au verset 14, le semeur sème la parole. Donc il s'agit de la semence ici, c'est la parole de Dieu. Cette même parole dont on a lu dans Jean 1. Cette même importance accordée à la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Et on voit, c'est super, on a été un culte. Ah, la prédication était bonne. Des fois, c'est même les gens qui vous remercient le plus à la fin du culte. Fantastique. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes ou les femmes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent, scandalonnent. C'est un piège pour eux. Les difficultés ou la persécution. Vous savez, des fois, il ne faut pas aller chercher très loin pour avoir des difficultés à cause de la parole. Réécoutez les messages du pasteur Marie-Hélène Moulin ces dernières semaines. Vous verrez que la persécution, ce n'est pas forcément Daesh ou Boko Haram qui vous court après avec des fusils pour vous descendre. Ce n'est pas ça. La persécution, ça peut être quand quelqu'un voit dans votre sac votre Bible, un collègue de travail, et se moque de vous. Les difficultés, ça peut être lorsque vous commencez à mettre la parole en action et les résultats que vous escomptez ne sont pas au rendez-vous le lendemain matin avec votre tasse de café. Et à partir de ce moment-là, on trébuche. C'est un piège pour nous, on s'offense. Ouais, ça ne marche pas ce truc. Là, Jésus nous donne les symptômes et la cause du symptôme. C'est qu'il n'y a pas de racine. Ça manque de profondeur. Ça a grimpé trop vite. Pourquoi ? Parce que le sol n'était pas bon. Le sol était pierreux. Je continue. D'autres encore reçoivent donc la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde. Vous avez des sources de préoccupations dans le quotidien ? L'attrait trompeur des richesses. Il vous arrive de courir après l'argent ? Il vous arrive de vouloir vous comparer parce que c'est à celui qui a la dernière télé ? Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à la SBM à Monaco. L'hôtellerie, hein, pas le pétrole, parce qu'il y a deux SBM à Monaco. Ça doit être la même chose de l'autre côté, remarque. C'était à celui qui avait la plus grosse voiture, c'était à celui qui avait la plus grande télé, c'était à celui qui avait les plus beaux meubles, c'était à celui... Mais tu t'es endetté pendant 15 ans pour... Oui, mais c'est pas grave. J'ai une voiture de millionnaire. L'attrait, pas l'attrait des richesses, l'attrait trompeur des richesses. quand vous avez le iPhone 5 et que 4 mois après, il y a le iPhone 6 qui sort, quelle est votre réaction? Une déception? Ah, je suis plus à la page. J'ai un vieux taco entre les mains, mais tu l'as acheté il y a 4 mois. Il t'a coûté 500€ il y a 4 mois. Mais quand le 6 sort en magasin, ils ont déjà le 7 en stock. Je dis pas dans les tuyaux, je dis en stock. En réalité, si tu veux savoir, ils ont déjà le 7, le 8 et le 9. La course à l'armement. Ça, c'est l'attrait trompeur des richesses. Ah, je serai heureux quand j'aurai un plus gros compte en banque. Non, c'est une tromperie. Si seulement je pouvais avoir de quoi payer ci ou ça, alors je... C'est une tromperie. Il nous est dit ensuite, et les passions en tout genre. Ça peut être au sens quotidien du terme. PSG Barça, les enfants, et Juve Monaco. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va être. Votre collègue de travail, si BCBG, n'est plus le même dans un stade. Vous ne lui connaissiez pas ce vocabulaire. Ça, ça peut être une passion, ou ça peut être la passion au sens philosophique du terme. Ce qui te brûle, ce qui te consume, les désirs les plus bas de l'être humain. Les passions en tout genre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça pénètre en nous, ça étouffe la parole, et ça la rend infructueuse. La parole est toujours en toi. Tu as pris du temps pour mettre la parole en toi. Seulement voilà, il y a autre chose qui est venue étouffer cette parole. Elle est toujours là, mais elle ne porte aucun fruit. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On accuse Dieu. C'est ta faute, ça marche pas, je comprends pas, je prie, nanana, nanana. Oui, mais le matin, tu lis ta Bible, et le soir, tu regardes l'exorciste. Et le lendemain, tu te gaves d'ultra-violence. Et le surlendemain, tu vas avec tes amis et ton discours n'est que mondain. Et le jour d'après, tu vas, etc., etc., etc. Que mets-tu à l'intérieur de toi? Vous savez, Andrew Mack dit, la foi et l'incrédulité, c'est comme un attelage tiré par deux chevaux qui vont dans, chacun dans son sens. Ça va nulle part. Tu es obligé à un moment donné... Si tu décides de mettre la parole de Dieu à l'intérieur de toi, je répète, c'est la même parole dont nous avons lu dans Jean 1, cette puissance, Dieu lui-même incarné dans sa parole. Eh bien, même ça à l'intérieur de toi, même Jésus à l'intérieur de toi peut être infructueux, ne produire aucun fruit dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent venir étouffer. Et il nous est dit enfin, d'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Maintenant, regardons dans Matthieu 13. Matthieu 13. Ce jour-là, verset 1, Jésus sortit de la maison. Alors, il y a des détails qui sont intéressants par rapport au discours et il y a des détails qui sont intéressants par rapport au contexte. Moi, j'aime les détails aussi du contexte parce qu'ils humanisent tellement Jésus. Jésus n'a pas organisé une session d'évangélisation au bord du lac ce jour-là. Jésus est sorti de chez lui et s'est assis au bord du lac. Peut-être qu'il faisait des ricochets. Peut-être qu'il regardait les nuages. Peut-être qu'il était en train de penser. Peut-être qu'il était en train d'envisager ce que serait son ministère. Enfin, il était tranquille, quoi. Oui, mais voilà, la foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, il explique au verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, Ça, c'est ajouté par rapport à Marc. Il ne la comprend pas. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. On va développer après. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses, il n'est pas question des passions ici, c'est pour ça que les évangiles, la complémentarité des évangiles, c'est très important, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Ensuite, dans Luc chapitre 8, il nous est dit au verset 4, « Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. » C'est-à-dire que plus tu avances, plus la tranquillité Elle est atomisée. C'est, là, ils viennent carrément des autres villes maintenant pour l'entendre. Vous imaginez la foule que ça représente? Je ne sais pas si vous aimez être tranquille à la plage, par exemple. Vous allez dans un coin où vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Voilà. Vous ne voulez pas être comme des sardines là, au bord de Nice sur les galets, donc vous allez dans un coin tranquille. Non, non, mais ils viennent des autres villes se mettre à côté de vous, juste à côté de vous. Alors il dit cette parabole, un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut piétinée. C'est-à-dire que celui qui est le long du chemin, c'est non seulement celui qui entend la parole, c'est celui qui ne la comprend pas, mais mieux que ça, c'est même celui qui la piétine. Vous savez, c'est pas compliqué aujourd'hui d'entendre l'évangile. Il y a des sites internet, il y a des églises, on n'a pas besoin de se cacher dans une cave comme dans certains pays du monde pour aller entendre l'évangile. Mais la plupart des gens, ça ne les intéresse pas. Soit parce qu'ils n'entendent pas le véritable évangile, qui est que Dieu est amour et que sa grâce est pour nous. Soit parce qu'ils ne veulent pas changer. Et qu'ils se disent, mais pourquoi veux-tu que j'aille chercher quelque part qui risque de remettre en cause mon petit train-train quotidien, alors que je suis très content avec ça. Ils piétinent la parole. Ils ne la comprennent pas et ne veulent pas la comprendre. Ça ne les intéresse pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ces gens entendent la parole comme vous et moi. Mais aussitôt, le diable vient et enlève. Ce qui me fait dire quelque chose. Parce que bien sûr, la question est de dire, c'est pas, ah ben ça c'est super pour mon voisin, je vais pouvoir aller lui dire, voilà toi t'es comme ça. Non, c'est examinons-nous nous-mêmes. Et au fil du temps, on peut être l'un de ces quatre terrains. La première chose, c'est accordons-nous à la parole l'importance qui est la sienne. Je ne parle pas que de la parole prêchée depuis le pupitre. Est-ce que tu lis ta Bible ? Est-ce que tu prends le temps de lire ta Bible ? Ou est-ce que tu la lis comme un devoir religieux ? Est-ce que tu lis ta Bible avec, j'ai connu des gens comme ça, de la musique dans les oreilles, les écouteurs dans les oreilles et je lis ma Bible ? Crois-tu que tu es véritablement 100% concentré sur ce que tu es en train de lire ? Dis, si ils nous ont demandé de ne pas conduire avec des écouteurs, il y a une raison. C'est parce que les gens se crachent en voiture. Bon, parce que l'attention, elle n'est plus sur la route. Alors pourquoi faire la même chose avec la parole de Dieu ? Ensuite, il nous est dit, donc elle fut piétinée, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Intéressant, voilà un nouvel élément. Non seulement il y a peu de terre, mais il n'y a pas d'humidité. En réalité, c'est parce que comme il y a peu de terre, c'est tout de suite très sec. L'humidité se trouve dans les profondeurs. Je répète, l'humidité se trouve dans les profondeurs. Je continue. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte de l'effet des ronces dans ta vie, mais tu te rendras compte du fait qu'il n'y a pas de fruits. Les ronces poussèrent avec elle. Et jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a pas de fruit et on s'interroge. Et ensuite, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, il nous est dit, verset 11, voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Développer des racines, ça prend du temps. Mais ça va permettre d'aller chercher l'humidité qui est dans les profondeurs, de sorte que quand il commence à faire chaud dans ta vie, tu portes quand même du fruit. Je vais modifier ce que je viens de dire. La parole porte quand même du fruit en toi et à travers toi. Mais vous remarquez que la semence, elle est la même pour les quatre. Elle n'est pas différente chez celui qui porte du fruit de chez celui qui n'en porte pas. La seule différence, c'est la qualité du sol et la profondeur des racines. Et ça n'est pas de la responsabilité du semeur. Ça n'est pas de la responsabilité de la semence. C'est de la responsabilité de la terre, c'est-à-dire de nous. Ton cœur, c'est toi qui détermine ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ne blâmons pas la parole de Dieu, ne blâmons pas Dieu par rapport aux résultats qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, si on n'a pas assumé la responsabilité de savoir dans quel genre de terre la semence allait tomber. Ça prend du temps de développer des racines. Ça prend du temps de dépierrer. Il y en a qui ont déjà travaillé dans un jardin. Quand vous voulez faire un potager, ou faire pousser des fleurs, ou ce que vous voulez, et que tout ce que vous avez, c'est un vieux talus, dur comme du béton, jamais travaillé, jamais labouré, avec des cailloux, avec des vieilles racines, et puis on va ajouter encore un étage, et il y a les bambous du voisin, ceux qui ont déjà voulu casser des racines de bambou, c'est horrible. Voilà, le sol il est comme ça. Ça prend du temps de rendre ce sol meuble. Ça prend du temps de travailler de manière à ce qu'on va y planter pousse et porte du fruit. Il y a tout un travail préparatoire. Et tu ne peux pas dire, oh allez, on s'en fiche, je jette et puis c'est merveilleux, ça pousse comme ça poussera. Ben ça poussera pas. Et si ça pousse, ça sera étouffé. De quoi on parle? Pourquoi on n'a pas de résultat dans notre vie comme on souhaiterait en avoir? Il faut se poser des questions à un moment donné. On sait que la parole, elle ne change pas. Alors si elle est la même pour le type d'à côté et que pour lui ça fonctionne, ça me pose une question, pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas? Peut-être que ça fonctionne dans un domaine, ça ne fonctionne pas dans l'autre. Pourquoi? Ici, on a des raisons, on a des réponses de Dieu. Ça peut venir du sol, ça peut venir du fait que, oui, tu mets la parole à l'intérieur de toi, mais qu'est-ce que c'est que cet intérieur de toi dans lequel la parole va? Je continue. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer. Vous voyez, les ronces, on n'est pas victime d'elles. On a laissé étouffer la parole par les ronces. Ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, ce qui est fou, hein, de ne pas avoir d'argent, ça peut étouffer la parole. Avoir de l'argent et ne pas savoir le gérer, ça peut étouffer la parole. Donc l'argent en lui-même n'est pas un problème. C'est la conception qu'on en a et le rapport qu'on a avec lui. Ça peut être soit les préoccupations, soit les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous savez ce qu'on va faire? J'aurais dû le faire avant de prêcher en réalité. On va prier 2 secondes et on va dire « Seigneur, je te demande de m'aider à travailler mon cœur pour que ce que j'entends là tombe dans une bonne terre et porte du fruit. Je prends la décision, Seigneur, non seulement d'entendre, mais d'écouter et de dire « Je veux que rien ne puisse faire obstacle à ton fruit dans ma vie, à ce que la parole agisse dans ma vie. Seigneur, aide-moi à tourner mon cœur vers toi, à ameublir mon cœur pour toi. » Au nom de Jésus. Amen. Je continue. Revenons dans l'évangile de Marc. Quelque chose d'intéressant qui nous est dit après, dans d'autres paraboles. Ça va, vous êtes avec moi?
Ok.
Chapitre 4 toujours. Il nous est dit... réalité, on pourrait continuer, verset 21, verset 24. Le lien entre tout ça, c'est prêter attention à la manière dont vous écoutez. 24, prêtez bien attention à ce que vous, et à ce que vous entendez. Mais au verset 26, il dit « Voici encore à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. » Exactement la même parabole. Mais là, il y a un point intéressant qui est dit. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Ça, c'est un tronc commun, on pourrait dire, à ce qu'on a vu dans les endroits pierreux, oui, ça germe et ça pousse, seulement ça brûle tout de suite. Dans les ronces, ça germe et ça pousse, seulement c'est étouffé. Tu vois, faut pas confondre l'herbe germée et le fruit. Ne crois pas que la parole de Dieu est là uniquement pour produire de l'herbe. Elle est là pour produire du fruit. Mais ça nécessite autre chose pour arriver jusqu'à la maturité, c'est-à-dire jusqu'au fruit, plutôt que simplement de l'herbe. Mais seulement, il y a quelque chose d'intéressant ici. Il est dit, la parole, la semence, que tu dormes ou que tu restes éveillé, nuit et jour, nuit et jour. C'est-à-dire même pendant que tu dors, la parole de Dieu produit du germe en toi et avance en toi. Vous comprenez ? Ça me rappelle cette histoire des dégâts des eaux, je vous en ai parlé. Tu peux regarder ton plafond, nuit et jour, ça n'arrêtera pas de couler. Dans le bon sens, c'est la même chose avec la parole de Dieu ou avec tes soucis. Tu peux les regarder nuit et jour, ça ne les réglera pas. Tu peux t'en inquiéter et perdre le sommeil, dormir ou veiller, ça ne changera rien. Mais la semence que tu mets à l'intérieur de toi, elle, que tu dormes ou que tu veilles, elle germe et elle pousse. Autrement dit, la parole de Dieu est suffisante. Elle a en elle la puissance nécessaire. Tes efforts n'y changeront rien. Tout ce que tu as à faire, c'est mets la parole à l'intérieur de toi et assure-toi que la terre que tu es est bonne pour que cette parole produise du fruit. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est ta responsabilité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous aide à cela. Il nous révèle les pierres qui sont à enlever. Il nous révèle les ronces, peut-être, qu'on a commencé à laisser pousser dans notre vie. Et mais là, on a un choix à faire. Quand tu as des pierres, personne ne va venir les enlever pour toi. Donc, il faut se relever les manches et dire, là, je vois qu'il y a un obstacle dans ma vie, comme par exemple une pierre de chute. Vous savez, c'est très intéressant de regarder nos propres attitudes, nos propres réactions. Simplement, le problème, c'est que la plupart du temps, on ne les voit pas. Donc, il faut que ce soit les autres qui nous les montrent. C'est pour ça qu'il est dit que les hommes entre eux sont comme le fer qui aiguise le fer et l'homme est un miroir pour l'homme. Quand quelqu'un te fait remarquer que quelque chose ne va pas chez toi, alors ça peut être soit de manière très posée, tu sais, je voulais te parler parce que la semaine dernière, tu m'as dit quelque chose. Seulement, voyez-vous, pour ceux qui écoutent le CD, nous sommes près de la Méditerranée. Et dans le sud de la France, les choses vont beaucoup plus vite. Ça, en tout cas, ça va plus vite. C'est-à-dire qu'en général, c'est tout de suite que l'autre te fait remarquer que ton attitude ne convient pas. Réfléchis à ces choses. Plutôt que toi-même de rebondir sur le rebond de l'autre, réfléchis à ce qui s'est passé. Remets-toi en question. Et dire, plutôt que de penser que l'autre est un abruti fini, qu'il n'a rien compris et que c'est moi que j'ai raison, pose-toi la question. Et si j'étais pas tout à fait blanc-bleu dans l'histoire ? Blanc-bleu ? Blanc-bleu. Expression française qui signifie tout à fait nickel, tout à fait dans les rails, tout à fait irréprochable. Pose-toi la question. Alors après, si au bout du compte tu te rends compte que non, véritablement, à froid, avec l'aide de Dieu, tu te rends compte que tu es réglo, bon, c'est OK. Mais l'idée, c'est l'autre, je peux me servir de ce qu'il me dit comme d'un miroir pour voir ce qui ne va pas chez moi. C'est pratique, hein, les miroirs, des fois. Quand vous avez oublié un morceau de dentifrice sur le coin de votre bouche, par exemple, et que vous partez au boulot comme ça, ou quand vous vous maquillez, puis ça, le rouge à lèvres est un peu débordé. Ça peut être pratique, un miroir. C'est exactement la même chose. Donc, on utilise ça pour dire, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques cailloux à dégager dans le terrain là ? Et ensuite, on se relève les manches et on le fait avec l'aide de Dieu. Et si on n'y arrive pas, on demande conseil. Si vous avez la chance d'être dans une église locale, il y a des gens qui sont là pour vous aider. De dire, ok, je me rends compte qu'il y a ça et ça qui ne va pas. Première personne à qui on en parle, c'est Dieu. Seigneur, aide-moi à changer ça dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent, ce que tu prenais pour un caillou est en réalité la cause, et que, la conséquence, pardon, et que la cause, elle est plus profonde et elle nécessite d'aller chercher dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller chercher, parce que ça fait mal. Et j'arrête là le cours de psycho du dimanche matin. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Il faut enlever les cailloux. Ensuite, les ronces, eh ben pareil. Tu te rends compte que peut-être le Saint-Esprit te révèle. Tu as laissé pousser certaines choses dans ta vie. Tu as laissé certaines fréquentations dans ta vie t'influencer à propos de certaines choses. Ou tu passes trop de temps à regarder la télévision ou tel film. Ou tu devrais changer de genre de littérature. Ou tu devrais passer plus de temps dans la parole de Dieu que à toute autre chose, je ne sais pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va vous parler. Et vous dire, voilà, là, il y a des ronces à enlever dans ton terrain. Même chose. Les ronces, ça ne se coupe pas, ça se déracine. Ouais ? Donc, il dit, tu peux regarder autant que tu veux, tu peux t'inquiéter autant que tu veux, tu peux faire tous les efforts que tu veux. En réalité, la parole, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est en toi, elle germe, elle pousse. Vous savez, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à... Enfin, en tout cas, c'est ce qui attire le plus mon attention sur Dieu, j'allais dire, en tant que grand scientifique. Et même si moi, je n'ai pas les connaissances scientifiques pour ça, vraiment, ça m'attire. De comprendre à quel point tout ce qu'il a créé, y compris nous, est quelque chose d'absolument incroyable. Pas seulement... Vous savez, par exemple, vous avez des chirurgiens qui vous disent, nous... On est toujours émerveillé par ce qu'on voit dans le corps humain. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a beaucoup de médecins qui pensent ça, beaucoup de chirurgiens qui pensent ça. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est trop parfait, c'est trop minutieux, c'est trop extraordinaire. Mais quand vous rajoutez au domaine physique une interconnexion avec le domaine spirituel, et je dirais même qui elle-même s'interconnecte avec le domaine de la pensée, là vous rentrez dans des univers... Dieu a créé l'être humain pour être, je dirais même pas compatible, pour vivre grâce à sa parole. C'est-à-dire que quand Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », vous savez, la plupart des gens pensent qu'il faut quoi pour vivre ? Il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Ça c'est, et il faut respirer. Quatre fonctions de base, indispensables, sans quoi on ne fait pas long feu. Mais ça, c'est pour le corps. En réalité, l'être humain va bien au-delà de la simple enveloppe physique. Et quand Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'il le dit dans cet ordre-là, éclairé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il y a une raison. Ton corps n'ira pas très loin si ton âme est en mauvaise santé. N'importe quelle petite étude sur Internet vous révélera que tel on pense, tel on est. Mais ce n'est pas simplement au niveau de tes actions, c'est au niveau de ton corps, on somatise. C'est-à-dire que si tu es rancunier, tu es anxieux, tu es dans la peur, tu es qualifié pour avoir une maladie grave et pour mourir prématurément. Mais ton âme, tes pensées vont dépendre de ton esprit. C'est-à-dire de ton cœur, la partie la plus profonde de toi. Et il faut que tu mettes la parole à l'intérieur de toi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette machinerie fantastique que le Seigneur a créée est interconnectée avec la parole de Dieu. Vous avez déjà mis une semence dans la terre. Vous vous êtes jamais dit, c'est quand même extraordinaire. La terre, quoi de plus banal ? On la piétine tous les jours. Vous prenez une graine de ce que vous voulez, un truc infinitésimal, vous le mettez à l'intérieur, ça vit, ça crée la vie. Maintenant, dites-vous que qui vous êtes fonctionne de la même façon avec la parole de Dieu. Ne nous prenons plus à la légère. Et ne prenons plus la parole de Dieu à la légère. On pourrait croire qu'on est de simples... J'allais dire bout de viande ambulant. Et on pourrait croire que ça, c'est un simple livre. Ô combien non. Ô combien non. Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé dépendant de la vie qui est dans sa parole à lui. Tu ne peux pas vivre sans mettre la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Maintenant, pour revenir au sujet, mais vous vous rendez compte à quel point dans la création, ça ne se limite pas à 6 jours, le jardin d'Éden, quelques vaches, quelques brins d'herbe, hop, l'être humain dessus, et c'est merveilleux, roule que je te pousse. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand un être humain naît, les parents lui donnent un corps, mais la vie qui est à l'intérieur de lui, d'où vient-elle ? Elle vient directement du royaume de Dieu. Directement de son labo à lui, où il t'a créé et il m'a créé unique. Et quand un être humain est conçu, le corps d'un être humain est conçu dans sa mère, lui, il envoie, je ne sais pas comment on peut dire, à travers l'espace, à travers le temps, à travers les dimensions, il envoie toi dans ce corps. Et le toi qui est dans ce corps fait maintenant partie d'un système qui ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que dans Jean 1, il nous est dit, dans la parole, il y a la vie. Et la vie éclaire tout homme venant dans le monde. C'est ce qu'il nous est dit dans Jean 1. Bon, ça ouvre des fenêtres de méditation hallucinantes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de même que la terre a été créée pour pouvoir faire germer n'importe quel type de semence, tu as été créé pour pouvoir faire germer la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Elle ne fonctionne pas, j'allais dire, elle fonctionne pas dans un animal. En réalité, si, elle fonctionne dans un animal. Tu parles, tu mets la parole, mais en tant qu'être assujetti, toi, c'est mieux que ça. Tu es le terrain à l'intérieur duquel elle pousse et elle germe. Donc, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. On voit que le résultat de la parole de Dieu dans ta vie est progressif. N'escompte pas qu'il se produise du jour au lendemain. Tu dis oui, mais j'ai vu des résultats à des prières que j'ai faites, le lendemain j'avais la réponse. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait 15 ans que la parole de Dieu elle produit du fruit à l'intérieur de toi, alors que tu ne sais même pas qu'elle est en train d'en produire dans ce domaine-là, parce que tu dormes ou que tu veilles, tu as mis la parole de Dieu à l'intérieur de toi il y a 15 ans de ça, et elle a mis 15 ans à te permettre d'obtenir aujourd'hui le fruit dont tu as besoin. Et toi tu dis, j'ai prié hier. Non, tu as préparé le terrain il y a depuis 15 ans, ou depuis une semaine, ou depuis un mois. Je ne suis pas Dieu pour connaître le genre de terre que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être que dans tel domaine, ça va être instantané. Parce que tu n'as aucun mal à croire pour cela. Mais peut-être que dans tel autre domaine, ça va être beaucoup plus long. Pourquoi ? Peut-être que tu as été dans une famille où les gens ont toujours été en bonne santé. Donc pour toi, la maladie est quelque chose d'étranger. À ce moment-là, quand tu lis la parole de Dieu sur la maladie, tu n'as aucun mal à croire. Mais peut-être que tu étais dans une famille où on rapiéçait des chaussettes à 0,50 euros pour ne pas aller acheter une autre paire de chaussettes au magasin. Et là, tu vas avoir beaucoup plus de mal à croire pour la prospérité divine. Donc, mets la parole de Dieu à l'intérieur de toi et assure-toi de travailler ton cœur. Assure-toi que quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, tu travailles. Assure-toi que tu dis, mais moi, je ne sais pas d'où vient le problème. Bien, mais est-ce qu'au moins tu détectes qu'il y a un problème ? Ben, ouvre tes yeux. Si ce pour quoi tu pries ne se manifeste pas, c'est peut-être que le terrain n'est pas encore suffisamment prêt. Peut-être que le fruit n'est pas là. Il y a peut-être de l'herbe qui commence à poindre. Peut-être même qu'il commence à y avoir, comment il nous dit ici ? L'herbe, puis l'épi. Mais il n'y a pas encore le fruit dans l'épi. Faut continuer, faut continuer, faut continuer. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais-lui confiance et arrête d'être plus intelligent que lui. S'il te dit de faire quelque chose, c'est peut-être parce que dans tel autre domaine dont tu ne soupçonnes même pas l'existence, il est en train, cette œuvre-là va enlever une pierre du terrain, de manière à ce que tu puisses avoir ce dont tu as besoin par la suite. Vous savez, je le dis et je le répète, et je le répète dans 3 Jean, il nous est dit, on ne prospérera jamais plus que notre âme. Jamais. Le truc, c'est que c'est pas forcément conscient, le travail dans l'âme. Simplement, tu obéis à Dieu, et Dieu fait en toi une œuvre. Vous avez remarqué qu'il est dit, la terre produit d'abord. Il n'y a pas d'effort là-dedans. C'est-à-dire, une fois que la terre est là où elle est, elle produit. De même, il nous a dit au début, c'est la semence qui germe. Ce que je veux dire, c'est que le système, il est bien fait. Dieu sait ce qu'il a créé. Simplement, il faut accepter de faire confiance à Dieu et de pas vouloir tout comprendre, pas vouloir tout maîtriser. Ouais ? Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Comprenez que ce n'est pas évident pour Jésus d'expliquer aux gens de l'époque ces choses-là. Donc, il utilise des paraboles qui nous servent encore aujourd'hui. Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences. Des fois, on a le sentiment qu'il faut qu'il y ait le prédicateur de l'année qui vienne pour pouvoir enfin nous aider à sortir de ce problème. Le prédicateur de l'année ne sera jamais plus haut que la puissance qu'il y a dans la parole elle-même, puisque c'est Jésus, qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte. Elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Dans les autres évangiles, il nous est parlé également de cette femme qui met du levain dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Alors les gens qui, comme moi, ne font pas de pain, hein, c'est pas forcément mon métier, j'essaie de faire du blé de temps en temps, mais ça c'est autre chose. J'essaie de vous détendre un peu là. Lise les notes de bas de page et on s'aperçoit que 3 mesures de farine, ça fait 25 kilos. Et là tout de suite, quand on voit que ce qu'on peut faire avec un paquet d'un kilo, et que vous prenez 25 kilos de farine, et que vous mettez juste un peu de levain à l'intérieur, et que ça fait lever toute la pâte que vous avez faite avec 25 kilos de farine, vous comprenez la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Petite chose, une lecture un matin, à laquelle tu t'astreins, tu te disciplines. Écoute le message. Plutôt que de penser à la semaine qui vient de passer, et à la semaine qui va arriver, et à ce que tu vas manger à midi et demi, et au fait qu'il faut que tu ailles chercher les fleurs parce que c'est... Non, concentre-toi sur le message. Je continue ? Encore un peu ? On est jusqu'à 20h pour aller voter, donc ça va, rassurez-vous, il n'y a pas de... Regardez avec moi dans 2 Timothée 3,15. Il nous est dit, vous savez, 2 Timothée c'est très particulier parce que rien ne va plus. Dans 1 Timothée c'est super. Jeune pasteur dynamique, une église en feu. Dans 2 Timothée, Paul est en prison. Et non seulement il est en prison, mais il lui écrit noir sur blanc, pour moi, c'est fin de course. On sait qu'il sera décapité à Rome quelques temps plus tard. Je fais juste une parenthèse. Ne jaugeons pas ou ne jugeons pas l'impact, ne jugeons pas la véracité, ne jugeons pas si oui ou non on a accompli ce qu'on devait accomplir aux circonstances extérieures. Jésus a été crucifié, Pierre a été crucifié à la tête en bas, tous les apôtres, tous les disciples, ils sont quasiment morts de mort martyr. Paul a été décapité. Bon, bienvenue à l'église, hein, c'est super, vous êtes content d'être chrétien et de vous dire... Non mais, si tu regardes la fin de Paul et que tu dis... Oui mais, et que tu ne regardes pas tout ce qu'il y a eu avant et que tu juges une vie à la manière dont ça se termine, vous savez, faut pas juger en fonction des apparences. Mais rien ne va plus ici. Paul, son maître à penser, le leader, est en prison. En plus, il lui dit, pour moi, c'est terminé. J'ai accompli ma course, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis prêt à mourir. Timothée, l'église bat de l'aile. Ses leaders l'ont trahi, sont retournés contre lui. On vit à une époque où les chrétiens sont persécutés, je vous rappelle. Hein. Donc, se retourner contre toi, c'est pas de dire « Bon, ben, je quitte ton église !» Voilà, il claque la porte. Non, non, c'est mieux que ça. C'est qu'il va carrément aller te livrer aux autorités pour qu'elles viennent te jeter au lion. Alors, bon, je passe les détails, mais il y a toutes sortes de choses sympathiques. Donc, on est dans ce contexte-là. Et Paul est en train d'essayer d'encourager ce jeune pasteur. « Quant à toi, verset 14, 3-14, tiens ferme dans ce que tu as appris, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. » Ouais. Ici, il est écrit qu'ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mais j'aime bien ici, tu connais les saintes écritures. Mais il ne s'arrête pas là. Il explique un processus. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, étape numéro 1, en vue du salut, étape numéro 2, par la foi en Jésus-Christ. Paul est en train de dire à Timothée, tu connais les écritures, et tu les connais depuis ton enfance, persévère. Parce que ces écritures vont avoir un résultat, c'est qu'elles vont te rendre sage. Et cette sagesse va te permettre d'obtenir le salut. Tu dis, je suis déjà sauvé, je suis né de nouveau. Non, mais le salut va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que le salut, à l'intérieur, vous avez la provision totale de ce que Dieu a pour vous. Libération, protection, bénédiction, provision, délivrance, etc., etc. Tout ce que, en tant que chrétien né de nouveau, tu peux avoir à affronter aujourd'hui, tu peux espérer aujourd'hui, tout se trouve résumé, encapsulé dans le salut. Donc, ne pense pas que quand il est question du salut, c'est uniquement l'expérience de la nouvelle naissance. Sans quoi, écrit à Timothée, ce verset n'a aucun sens. Il est déjà né de nouveau depuis longtemps. Mais seulement, il y a un processus. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Tu vois, l'importance de la parole, c'est que sans le fruit qu'elle procure, sans la parole à l'intérieur de toi, tu n'auras pas le salut dans son intégralité. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas acquis la sagesse qui te permet d'acquérir ce salut. Vous voyez comment ça fonctionne ? Ok, Romains 12, 3. C'est une histoire de cœur. Je vous l'ai dit. Romains 12, 3, il est dit... Non, pas 3, pardon. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais... Donc déjà, il y a une première chose. Ne vous conformez pas au monde actuel. L'idée, c'est ne vous laissez pas modeler par la génération dans laquelle vous vivez. Comme une espèce de moule qui voudrait vous écraser pour vous faire prendre la forme qu'il veut vous donner. Ne vous conformez pas au monde actuel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller comme dans les années 1800. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut ne plus avoir de technologie, etc., etc. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ne te laisse pas modeler par l'atmosphère de la génération dans laquelle tu vis. Ça, c'est les ronces. Ensuite, il est dit, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, la parole de Dieu, elle va produire ce fruit en toi. Elle va avoir cet effet en toi, plus exactement. C'est qu'elle va te transformer. Elle va renouveler ton intelligence. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce que je disais à Sarah hier, c'est que quand tu commences à étudier sur un sujet, le problème c'est que ça part dans tous les sens. Quand tu commences à te pencher sur le mot intelligence ici, et à plonger dans le grec, bon après, je prêcherai peut-être là-dessus un jour. Le cœur, l'âme, l'intelligence, vous vous rendez compte que les mots sont complètement interchangeables et interchangés dans les traductions, et si on veut vraiment savoir ce dont il s'agit, il faut aller se pencher dans le grec. Mais l'idée, c'est que la parole de Dieu, lorsque tu lui donnes sa place, un des résultats, puisqu'elle est vivante, on va le voir, un des résultats qu'elle a, c'est qu'elle transforme ton intelligence. On ne prospère... Ton intelligence, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a dans ton âme. Tu ne prospéreras pas plus que ton âme. Mais tu pourras te cogner la tête contre le mur tant que tu voudras, À la limite, tu pourras assouplir un peu ton cerveau, mais tu ne changeras pas ton âme. Ça, c'est le travail de la parole de Dieu, le renouvellement de ton intelligence. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit fait son travail à travers cette parole. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est celui qui rend ses mots vivants. Vous savez ce que Jésus a dit ? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ensuite, dans Éphésiens 3,14, et j'en aurai terminé avec ça, il nous est dit, tu dis, mais quel est le processus, quel est le résultat? Je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Il nous est dit dans Éphésiens 3,14, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà pourquoi, ça devrait vous inciter à lire ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est, notamment au verset 8, le mystère caché, verset 9, de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous relirez tout ça, vous relirez Colossiens aussi, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, il nous est dit, au verset 14, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Donc tu peux faire cette prière sur toi-même. Quand tu cherches comment ameublir, j'espère que le mot existe parce que ça fait 4 fois que je le dis, s'il n'existe pas, tant pis. L'Académie française censurera mon message. Ameublir la terre, tu peux faire cette prière aussi. Sois fortifié par son esprit dans ton être intérieur, de sorte que le Christ, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, habite dans votre cœur par la foi. Donc une fois encore, la parole, c'est le Christ, c'est Jésus. Je prie, quel est le résultat ? Que vous soyez enracinés, tiens, c'est intéressant, revoilà les racines. Et fondés dans quoi ? Dans l'amour. Tu dis, mais comment la parole de Dieu peut-elle agir en moi pour enlever des pierres ? Comment la parole de Dieu peut-elle agir en moi pour m'aider à déraciner des ronces ? Pour travailler un sol, le sol qu'est mon cœur. C'est très simple. C'est parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, est remplie d'une substance qui s'appelle l'amour. Ce qui est logique, puisque Dieu est amour, que Jésus et le Père ne font qu'un, et que Jésus est la parole de Dieu. Donc tout va ensemble. L'amour, je ne dirais pas qui est dans le Père, non, qui est le Père, est véhiculé comme quand tu prends une gélule. Et véhiculé dans la parole que tu mets à l'intérieur de toi. Et il nous est dit donc ici, le Christ habite dans votre cœur par la foi, et je prie que vous soyez... C'est un processus, il y a une logique dans les écrits de Paul. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, de comprendre. Et ensuite, il nous est dit de connaître. Vous savez que dans la Bible, quand il est question de connaissance, ça n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance pragmatique. C'est une connaissance physique, c'est-à-dire j'ai expérimenté. Il y a deux manières d'apprendre. Il y a par la tête et il y a par le corps, c'est-à-dire tu vas aller toi-même faire la chose, vivre la chose. Non seulement de connaître, mais de comprendre, pardon, non seulement de comprendre, mais de connaître cet amour, donc de l'expérimenter, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À nouveau, il y a un schéma ici, il y a un processus. Tu mets la parole de Dieu en toi. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Tu pries là-dessus. La parole germe, elle pousse. Qu'est-ce qu'elle véhicule ? C'est quoi cette vie qu'il y a à l'intérieur ? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va commencer à te révéler certaines choses, à te donner la puissance d'enlever les cailloux, d'enlever les ronces. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai déjà prêché là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est l'amour qui a cette puissance-là ? Parce que tu vas te rendre compte que les ronces et les pierres dans ta vie ont été mises là par peur. La peur, c'est la racine de ces choses-là. Pourquoi est-ce que les gens courent après l'argent ? Par peur. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent de ne pas avoir assez d'argent ? Par peur. Pourquoi est-ce qu'ils s'adonnent à toutes sortes de passions ? Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi ? Peut-être peur d'affronter une certaine réalité. Et ils vont aller dériver ça dans autre chose. La parole de Dieu est remplie de l'amour de Dieu. Et cet amour va produire en toi un résultat qui fait qu'elle va attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire la peur. Elle va, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Chasser la peur. L'amour parfait chasse la crainte. Vous connaissez ce verset. Et ensuite, tu vas pouvoir enlever au fur et à mesure. Et cet amour, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est dit, le résultat final, vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alors, c'est effectivement une histoire de cœur. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de travailler sur notre terrain. En partenariat avec Dieu, il n'y a rien que Dieu nous demande de faire dont il est prévu d'être exclu. Chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, c'est toujours en partenariat avec lui. Tu fais ta part. Tu accordes de l'importance à la parole de Dieu. Tu passes du temps dans la parole de Dieu. Tu laisses le Saint-Esprit faire son travail. Tu obéis à ce qu'il te montre et ce qu'il te révèle au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Prends les étapes les unes après les autres. Toi, tu veux arriver au point numéro 10, mais il est en train de travailler avec toi sur le point numéro 1. Va une étape après l'autre. Et tu verras en te retournant, tu diras, mais je ne suis plus le même. Parce que la parole de Dieu a fait cette œuvre en toi, qui est de libérer l'amour qu'elle contient. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Alors voilà la grande différence avec les témoins de Jéhovah et autres. On n'est pas en train d'obéir à une liste de « il faut pas ». On n'est pas en train de répéter bêtement des prières toutes faites, ou d'obéir sans comprendre à un dogme parce qu'un homme a décidé qu'il devait en être ainsi. On est en train de parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, qui veut entrer à l'intérieur de toi pour faire l'œuvre qu'il a à faire. Et alors, tu prospéreras, dans tous les sens du terme. Amen. Voilà.